Je crois qu'on va conclure. Je n'ai pas prévu de faire une intervention finale. J'avais intitulé « Quelques réflexions de conclusion ». J'avais donné comme titre « Suite ou fin de la République des lettres ». Point d'interrogation. Et en donnant ce titre il y a quelques semaines, je ne savais pas que cela toucherait en fait au vif de notre discussion finale. Et il me semble que cette question a quand même parcouru nos journées. Nous avons parlé des espoirs et des illusions de la République des lettres dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et dans les années 30, ou des illusions et des désillusions, au point qu'hier, déjà, après l'une des interventions de l'après-midi, quelqu'un a pris la parole dans la salle pour contester le titre de notre colloque, hein, « La République des lettres dans la tourmente », disant que ce titre l'avait choqué parce que la notion même de République des lettres n'aurait pas été pertinente durant cette période de l'entre-deux-guerres. Je crois que... C'était Goulmeau ? Ah, je n'ai pas reconnu. C'était Goulmeau. Il contestait donc le titre même, 18e-iste, avec l'idée que la notion de République des lettres n'était plus pertinente du temps des États-nations, quand les littératures étaient essentiellement nationales. Alors je crois que c'est un petit peu cette discussion qui est revenue après votre propos entre vous et Marc. Cette notion est-elle utilisable pour la modernité? Et je crois qu'on a vu également qu'elle était utilisée. Elle a été citée à la fois par Jacques Le Rider à propos d'Hofmannsthal, pour qui, dans la réflexion d'Hofmannsthal, elle était cruciale. Et Michel Jardine nous a rappelé ce matin que Phocion et Valéry, dans le texte fondateur de l'Organisation de coopération intellectuelle, revenaient également à cette notion de République des lettres. Nous avons beaucoup parlé donc de République des lettres, mais n'est-ce pas qu'une métaphore ou peut-être qu'un masque pour cette coopération intellectuelle européenne, pour cette union des fédérations intellectuelles? Ce qui m'a frappé aussi dans ce que nous avons entendu, c'est que nous avons beaucoup parlé de la réconciliation franco-allemande, en laissant de côté probablement un certain nombre d'autres aspects qui me paraissent tout à fait importants. Je rappelais tout à l'heure qu'on aurait sans doute pu parler davantage de l'Amérique latine. Je pense que nous aurions, mais ça pourrait être l'objet d'une suite, nous aurions pu parler davantage également de Rome et de la romanité et des rapports avec l'Italie. Je crois qu'il a été dit à plusieurs reprises que dans ces organisations, il y avait une grande composante méditerranéenne à certains moments, et peut-être que nous n'avons pas assisté assez sur cela. Moi, je vois un certain nombre d'alternatives que nous devrions poser pour la suite. Enfin, s'il y a une République des lettres, vous avez rappelé l'alternative Genève, je crois que vous avez évoqué Genève ou Moscou, le titre de Drieux. Je crois que la question mériterait d'être posée, aurait pu être posée davantage au centre de nos débats. Hier, je rappelais à propos de l'exposé de Jacques Le Rider sur Hofmannsthal que l'alternative Genève ou Vienne était très souvent posée comme deux modèles d'une Europe culturelle, d'une Europe des lettres. Il y a Rome, capitale de la romanité. On sait que Curtius se tournera vers Rome une fois que l'Europe sera devenue allemande, sera l'essentiel de ses travaux. Et puis il y a bien sûr Paris avec cette présence peut-être exagérée dans l'Institut international de coopération intellectuelle, et le fait que le siège de cet institut était Paris n'a pas peu contribué à l'échec de cette entreprise. Le siège de cette institution était au Palais Royal, là où se trouve aujourd'hui le Conseil constitutionnel, ce qui montre une espèce de lieu. Il n'y avait pas de Conseil constitutionnel sous la Troisième République, mais le Conseil constitutionnel occupe les lieux qui avaient été donnés par le cartel des gauches à l'Institut international de coopération intellectuelle, ce qui montre bien comme c'était crucial dans l'entreprise française. Finalement, c'est l'Europe allemande qui a emporté la mise à la fin de la période que nous avons évoquée. Et on sait que lorsque l'armée allemande est entrée dans Paris en juin 1940, l'un des objectifs prioritaires, ce n'était pas l'Institut international de coopération intellectuelle, mais c'était la NRF. Et c'était peut-être à la NRF que se trouvait la vraie République des lettres, le vrai siège de la République des lettres. Je le dis parce que ce qui est aussi beaucoup apparu dans nos débats de ces deux journées, c'est que cette République des lettres était une République administrative des lettres, était une République, pour beaucoup, une République institutionnelle des lettres, et on vient de le revoir dans nos discussions, une République des notables, et beaucoup plus qu'une République peut-être des écrivains, ou en tout cas des jeunes écrivains. De fait, la NRF avait été un des hauts lieux de la réconciliation franco-allemande. Elle avait été toute proche de ces décades de Pontigny, mais lorsque ces décades de Pontigny étaient une initiative privée, avant que les décades de Pontigny se transforment dans les entretiens de l'organisation de coopération intellectuelle qui étaient, eux, beaucoup plus institutionnalisés. Et je crois qu'on a souvent vu dans nos débats jouer cette opposition entre des modèles de sociabilité intellectuelle administrative ou institutionnelle et le retour à des modèles de sociabilité privée, puisque vous-même, vous l'avez fait à la fin. On a souvent eu tendance à trouver cette République des lettres plutôt du côté de la Schlittenbach ou de Kolbach ou de... Je pensais aussi en vous écoutant qu'il est vrai que les correspondances entre exilés n'avaient pas à être suscitées un peu artificiellement comme les correspondances de l'organisation de coopération intellectuelle. Les correspondances entre exilés, c'était les correspondances européennes de la Renaissance, entre des lettrés qui étaient fatalement dispersés entre l'Europe, l'Amérique, l'Amérique latine et aux quatre coins du monde. Alors peut-être que nous avons mis trop l'accent sur ce qui était institutionnel et pas assez sur tous ces réseaux, tous ces autres réseaux qui ont existé. Je pense que si on devait recommencer, en effet, il faudrait parler plus d'un certain nombre de revues. Quelqu'un a évoqué l'Europe nouvelle, Louise Weiss et ses mémoires, la revue de Genève de Robert de Traze, des entreprises qui ont existé de manière souvent éphémère, d'ailleurs, parce qu'elles n'avaient pas ce soutien institutionnel. La revue Sourd, voilà. Je pense que si on refait ça, je crois qu'il faudrait aller de ce côté-là. Ce côté-là, on a peut-être été un petit peu pris au piège des aspects les plus institutionnels de cette affaire. J'aurais voulu moi aussi revenir sur les unions intellectuelles. On n'en a pas beaucoup parlé, les fédérations des unions intellectuelles dans l'entre-deux-guerres, puisqu'il a été souvent dit que, notamment dans les organisations proches de la SDN, les, les intellectuels allemands n'avaient été réintégrés qu'assez tard, mais je crois avoir compris que la Fédération des unions intellectuelles existait dès 1923 et que dès ce moment-là, la collaboration européenne avait repris. Vous avez rappelé aussi qu'avec le Pen Club, ça avait commencé beaucoup plus tôt. Alors ne nous trompons pas sur cette date tardive. Dans ces unions intellectuelles, cela dit, il me semble qu'il y avait une assez grande confusion qu'on a retrouvée dans beaucoup des entreprises qui ont été analysées ici. J'en donnerai qu'un seul indice. Il s'agit encore de Valérie, dont on a beaucoup parlé, avec Bergson, puisque Valérie était au centre, après Bergson, de beaucoup de ces entreprises, et il a été l'invité principal du 3e congrès des unions intellectuelles à Vienne dès octobre 26, et donc c'est avant ses engagements plus administratifs dans l'organisation de coopération intellectuelle. Et à ce moment-là, son fameux article « Note ou l'Européen » venait de paraître sous le titre « Europa » dans la revue du Prince de Rohan, dont on a parlé hier. Quand Valérie a pris la parole ce jour-là, le dernier au congrès des unions intellectuelles, était présent autour de lui un certain nombre de personnes dont on a beaucoup parlé ces deux jours. Émile Borel, qui est un peu le pilier français, ministre radical, et puis éloigné du radicalisme, qui est un peu le pilier français, mathématicien de toutes ces réunions. Ernst Robert Curtius, dont il faudrait aussi que nous parlions davantage de lui, il est au centre de toutes ces entreprises. Et si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas eu le temps de rechercher depuis hier, puisque c'était... Mais je crois me rappeler qu'il est revenu à Paris très très vite, après 1919. On le retrouve très vite. Il n'a pas tardé à revenir voir les écrivains français dès la fin de la guerre. Il a été beaucoup de questions de Curtius dans ces deux jours, mais je pense qu'on devrait revenir à lui. Il y avait encore Carl Schmitt, et Carl Schmitt, dont le destin était différent, mais qui a fait partie de ces unions intellectuelles dans les années 20. Et si mes souvenirs sont bons, Valérie a pris la parole juste après Carl Schmitt, au cours d'une séance qui était présidée par Hofmannsthal, dont il a été question hier. Et moi, je vois cela comme assez emblématique d'une certaine... confusion qui a régné très longtemps dans cette coopération intellectuelle de l'entre-deux-guerres. Au fond, ce qui les réunissait, c'était que tous redoutaient Moscou. Ces unions intellectuelles s'appelaient elles-mêmes l'internationale de l'esprit, par opposition, de manière très explicite, à l'autre internationale. Et c'est toujours ce qui me déconcerte, c'est pourquoi je n'ai pas d'explication, dans la présence si forte des radicaux français, c'est une certaine résistance à un changement de la culture qui est en train de s'opérer et à une certaine démocratisation de la culture de la part de beaucoup de ces intervenants dans ces unions intellectuelles des années 20. Jacques Le Rider nous rappelait hier comment la notion de révolution conservatrice était liée au programme de Hofmannsthal. Et vous parliez tout à l'heure du cinéma, de la présence du cinéma. Il est évident que la présence du cinéma ou de la radio est un objet de tension à l'intérieur de ces unions, qui rejoue un petit peu à l'échelle européenne le débat français de 1902, des humanités classiques et des humanités modernes. C'est le fait de savoir si on peut encore construire une Europe autour des humanités classiques, autour de l'humanisme civique. Je vois quant à moi, pour le moment, mais je pense qu'on va continuer à travailler sur ces sujets, deux leçons à retenir de ces citations de l'entre-deux-guerres que nous avons faites pendant deux jours. La troisième, elle est évidemment encore préalable, c'est celle de la validité de cette notion de République des lettres dans cette période. Première leçon, c'est celle de cette confusion idéologique ou peut-être naïveté intellectuelle de ces collaborations intellectuelles. Hors de leurs frontières, c'est un peu comme si ces intellectuels perdaient leurs repères ou que chacun, au fond, venait avec son agenda, son propre agenda, et justement que des venus de France, un certain nombre de républicains convaincus se retrouvent avec un certain nombre de notables du fascisme italien qui participent à toutes ces réunions. Hein. Très tard, dans les années 20 et 30, on a parlé de Guglielmo Ferrero un certain nombre de fois. Ce serait bien aussi de faire quelque chose d'un peu plus sérieux sur lui. La prochaine fois qu'on fait quelque chose, on fera... parce qu'il traverse toute cette période, il est passionnant. Mais c'est un autre Italien que je pensais, c'est pas Ferrero, c'est Bodrero. Bodrero, qui était le professeur d'histoire de la philosophie, qui est un haut dignitaire du régime, et qui, à travers toutes ces années, participe à toutes les réunions, alors qu'il est sous-secrétaire d'État à l'instruction publique en Italie. Et on peut se demander si ce n'est pas par crainte d'une autre Europe moins traditionnaliste en matière de culture, par une certaine peur non seulement de la démocratisation de la culture, mais aussi des avant-gardes littéraires et artistiques, qu'on peut être peu regardant sur les principes, et je crois qu'on doit absolument songer à cela, peut-être y compris aujourd'hui, lorsqu'on pense à la défense des humanités. La deuxième leçon, elle touche plus proprement aux écrivains. Toutes ces entreprises européennes sont évidemment très louables, mais on l'a dit, on l'a remarqué, elles ont quelque chose d'institutionnel, d'officiel, d'administratif, de bureaucratique, et elles constituent une Europe d'intellectuels fonctionnarisés. C'était très intéressant de revoir ces citations de Céline, pour nous qui avons participé à beaucoup de commissions un peu partout, et, de nous dire que là, justement, nous étions manipulés. Ça tombait très juste. C'est l'Europe des professeurs, hein, pour reprendre le titre de Thibaudet. Et n'oublions pas qu'il y a une autre République des lettres qui existe dans ces années-là. Quelqu'un parlait, je crois que c'était vous tout à l'heure, du Berlin des années 20, comme lieu de la plus grande effervescence artistique. Je crois que c'est vous qui avez dit ça. C'est peut-être là qu'était la République des lettres, dans cette Europe des jeunes écrivains qui se retrouvaient à Berlin, de Crevel à Auden et Sherwood, toute une génération qui était là-bas, puis qui se sont justement réfugiés à Paris après 1933, et puis dans cette diaspora intellectuelle qui était, quand on voit Marseille en 1940-1941, la Villa Bel Air, comme espace de cette République des lettres. Ce qui fait penser justement que dans cette Europe de l'entre-deux-guerres, pour devenir une société des esprits, ce qui manquait, c'était un certain libéralisme. Et là où on la retrouve, c'est dans ces lieux de sociabilité plus privés. Si les humanités modernes ne nous ont pas sauvés dans les années 30, si elles n'ont pas réussi à susciter un sursaut d'humanisme civique à l'échelle de l'Europe, c'est peut-être pour la raison qu'Alain indiquait dès 1932, et il répliquait directement à Valéry, Alain disait, il n'y a point d'humanité moderne pour la même raison qui fait que coopération n'est pas société. Il répliquait à la formule de Valéry, disant qu'il fallait concevoir la coopération intellectuelle comme condition de la société des esprits, qu'il appelait de ses voeux. Et Alain liait explicitement cet échec à la notion d'humanité moderne qui avait fait tellement couler d'encre et était l'objet de tellement de disputes dans la France de l'avant-guerre de 1914. Mais, me semble-t-il, pour ne pas terminer sur ce constat, je crois que ce qu'on a vu aussi dans ces deux journées, c'est que Bergson, Valéry et leurs complices ont aussi jeté les semences d'une société européenne des esprits qui a pris un autre visage après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que à travers beaucoup d'exposés que nous avons entendus dans ces deux jours, et encore ce matin, celui d'Éric Roussel sur les Mayrisch, on a mieux compris le lien qu'il pouvait y avoir entre les désillusions des années 20 et 30 et, dans son cas, la construction de l'Europe à partir de 1950 et dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, nous avons parlé beaucoup de ces désillusions, mais je crois qu'il ne faudrait pas conclure sur cela. Et il vaudrait mieux conclure avec un mot positif et un mot d'espoir. Et je crois que cette société européenne des esprits, c'est aussi à nous de la réaliser. Et c'est à travers ce colloque, ce que nous entendons réaliser, et tout en concédant que peut-être nous n'avons pas observé la parité pour réaliser cette fois-ci la société des esprits, mais que nous ferons un effort à la prochaine entreprise pour rejoindre la parité. Merci beaucoup.